Chapitre 10. Comment le roi de Navarre devina que Tourenius voulait dire Turenne et Margota Margot l'allée des 3000 pas. Le cabinet du roi de Navarre n'était pas bien somptueux, comme on le présume. Sa majesté béarnaise n'était point riche, et du peu qu'elle l'avait ne faisait point de folie. Ce cabinet occupait, avec la chambre à coucher de parade, toute l'aile droite du château. Un corridor était pris sur l'antichambre, ou chambre des gardes, et sur la chambre à coucher. Ce corridor conduisait au cabinet. De cette pièce spacieuse et assez convenablement meublée, quoiqu'on n'y trouvât aucune trace du luxe royal, la vue s'étendait sur des prés magnifiques situés au bord de la rivière. De grands arbres, saules et platanes cachaient le cours d'eau sans empêcher les yeux de s'éblouir de temps en temps lorsque le fleuve, sortant comme un dieu mythologique de son feuillage, faisait resplendir au soleil de midi ses écailles d'or ou à la lune de minuit ses draperies d'argent. Les fenêtres donnaient donc d'un côté sur ce panorama magique, terminé au loin par une chaîne de collines un peu brûlée du soleil le jour, mais qui le soir terminait l'horizon par des teintes violâtres d'une admirable limpidité, et de l'autre côté sur la cour du château. Éclairé ainsi, à l'orient et à l'occident, par ce double rang de fenêtres, correspondant les unes avec les autres, rouge ici, bleu là, la salle avait des aspects magnifiques quand elle reflétait avec complaisance les premiers rayons du soleil ou l'azur nacré de la lune naissante. Ces beautés naturelles préoccupaient moins Chicot, il faut le dire, que la distribution de ce cabinet, demeure habituelle de Henri. Dans chaque meuble, l'intelligent ambassadeur semblait en effet chercher une lettre, et avec d'autant plus d'attention que l'assemblage de ces lettres devait lui donner le mot de l'énigme qu'il cherchait depuis longtemps et qu'il avait plus particulièrement encore cherché tout le long de la route. Le roi s'assit, avec sa bonhomie ordinaire et son sourire éternel, dans un grand fauteuil de daim à clous dorés mais à franges de lamée. Chicot, pour lui obéir, fit rouler en face de lui un pliant, ou plutôt un tabouret, recouvert de même et enrichi de pareils ornements. Henri regardait Chicot de tous ses yeux, avec des sourires, nous l'avons déjà dit, mais en même temps avec une attention qu'un courtisan eût trouvée fatigante. « Vous allez trouver que je suis bien curieux, cher monsieur Chicot, » commença par dire le roi, « mais c'est plus fort que moi. » Je vous ai regardé si longtemps comme mort que, malgré toute la joie que me cause votre résurrection, je ne puis me faire à l'idée que vous soyez vivant. Pourquoi donc avez-vous, tout à coup, disparu de ce monde ? Eh, sire, fit Chicot avec sa liberté habituelle, vous avez bien disparu de Vincennes, vous. Chacun s'éclipse selon ses moyens et surtout ses besoins. « Ah, vous avez toujours plus d'esprit que tout le monde, cher monsieur Chicot, » dit Henri, « et c'est à cela surtout que je reconnais ne point parler à votre ombre. » Puis, reprenant un air sérieux, « Mais voyons, » ajouta-t-il, « voulez-vous que nous mettions l'esprit de côté et que nous parlions affaires ? Si cela ne fatigue pas trop votre majesté, je me mets à ses ordres. » L'œil du roi étincela. « Me fatiguer, » reprit-il. Et puis, d'un autre ton, « Il est vrai que je me rouille ici, » continua-t-il avec calme, « mais je ne suis pas fatigué tant que je n'ai rien fait. Or, aujourd'hui, Henri de Navarre a, de ci et de là, fort traîné son corps, mais le roi n'a pas encore fait agir son esprit. « Sire, j'en suis bien aise, » répondit Chicot, « ambassadeur d'un roi, votre parent et votre ami, j'ai des commissions fort délicates à faire près de votre majesté. Parlez vite alors, car vous piquez ma curiosité. Sire, votre lettre de créance, d'abord, c'est une formalité inutile, je le sais, puisqu'il s'agit de vous, mais enfin je veux vous montrer que, tout paysan béarnais que nous sommes, nous savons notre devoir de roi. » Sire, j'en demande pardon à votre majesté, répondit Chicot, mais tout ce que j'avais de lettres de créance, je les noyais dans les rivières, jetais dans le feu, éparpillais dans l'air. Et pourquoi cela, cher monsieur Chicot? Parce qu'on ne voyage pas, quand on se rend en Navarre chargé d'une ambassade, comme on voyage pour aller acheter du drap à Lyon, et que si l'on a le dangereux honneur de porter des lettres royales, on risque de ne les porter que chez les morts. C'est vrai, dit Henri, avec une parfaite bonhomie, les routes ne sont pas sûres, et en Navarre, nous en sommes réduits, faute d'argent, à nous confier à la probité des manants. Ils ne sont pas très voleurs, du reste. Comment donc? S'écria Chicot, mais ce sont des agneaux, ce sont de petits anges, sire, mais en Navarre seulement. Ah ah, fit Henri. Oui, mais hors de la Navarre, on rencontre des loups et des vautours autour de chaque proie. J'étais une proie, sire, de sorte que j'ai eu mes vautours et mes loups. Qui ne vous ont pas mangé tout à fait, au reste, je le vois avec plaisir. Ventre de biche, sire, ce n'est pas leur faute. Ils ont bien fait tout ce qu'ils ont pu pour cela, mais ils m'ont trouvé trop coriace et n'ont pu entamer ma peau. Mais, sire, laissons là, s'il vous plaît, les détails de mon voyage, qui sont choses oiseuses, et revenons-en à notre lettre de créance. Mais, puisque vous n'en avez pas, cher monsieur Chicot, dit Henri, il me paraît fort inutile d'y revenir. C'est-à-dire que je n'en ai pas maintenant, mais que j'en avais une. Ah, à la bonne heure, donnez, monsieur Chicot. Et Henri étendit la main. Voilà le malheur, sire, reprit Chicot. J'avais une lettre, comme je viens d'avoir l'honneur de le dire à votre majesté, et peu de gens l'eussent eue meilleure. Vous l'avez perdue? Je me suis hâté de l'anéantir, sire, car monsieur de Mayenne courait après moi pour me la voler. Le cousin Mayenne? En personne. Heureusement, il ne court pas bien fort. Engraisse-t-il toujours? Ventre de biche, pas en ce moment, je suppose. Et pourquoi cela? Parce qu'en courant, comprenez-vous, sire, il a eu le malheur de me rejoindre, et dans la rencontre, ma foi, il a attrapé un bon coup d'épée. Et de la lettre? Pas l'ombre, grâce à la précaution que j'avais prise. Bravo, vous aviez tort de ne pas vouloir me raconter votre voyage, monsieur Chicot, et dites-moi cela en détail, cela m'intéresse vivement. Votre majesté est bien bonne. Seulement une chose m'inquiète. Laquelle? Mais si la lettre est anéantie pour monsieur de Mayenne, elle est de même anéantie pour moi. Comment donc saurais-je alors quelle chose m'écrivait mon bon frère Henri, puisque sa lettre n'existe plus? Pardon, sire, elle existe dans ma mémoire. Comment cela? Mais avant de la déchirer, je l'ai apprise par cœur. Excellente idée, monsieur Chicot, excellente, et je reconnais bien là l'esprit d'un compatriote. Vous allez me la réciter, n'est-ce pas? Volontiers, sire. Telle qu'elle était, sans y rien changer, sans y faire un seul contresens. Comment dites-vous? Je dis que je vais vous la dire fidèlement, quoique j'ignore la langue, j'ai bonne mémoire. Quelle langue? La langue latine, donc. Je ne vous comprends pas, dit Henri, avec son clair regard à l'adresse de Chicot. Vous parlez de langue latine, de lettres? Sans doute. Expliquez-vous, la lettre de mon frère était-elle donc écrite en latin? Eh oui, sire. Et pourquoi en latin? Ah, sire, sans doute parce que le latin est une langue audacieuse, la langue qui sait tout dire, la langue avec laquelle Perse et Juvénal ont éternisé la démence et les erreurs des rois. Des rois et des reines, sire. Le sourcil du roi se plissa sur sa profonde orbite. Je veux dire des empereurs et des impératrices, reprit Chicot. « Vous savez donc le latin, vous, monsieur Chicot ?» reprit froidement Henri. « Oui et non, sire. Vous êtes bien heureux si c'est oui, car vous avez un avantage immense sur moi qui ne le sait pas. Aussi, je n'ai jamais pu me mettre sérieusement à la messe à cause de ce diable de latin. Donc, vous le savez, vous ?»« On m'a appris à le lire, sire, comme aussi le grec et l'hébreu. » « C'est très commode, monsieur Chicot, vous êtes un livre vivant. Votre Majesté vient de trouver le mot, un livre vivant. On imprime quelques pages dans ma mémoire, on m'expédie où l'on veut, j'arrive, on me lit et l'on me comprend. Ou l'on ne vous comprend pas. Comment cela, sire? Mesdames, si l'on ne sait pas la langue dans laquelle vous êtes imprimées... Oh, sire, les rois savent tout. C'est ce que l'on dit au peuple, monsieur Chicot, et ce que les flatteurs disent au roi. Alors, sire, il est inutile que je récite à votre majesté cette lettre que j'avais apprise par cœur, puisque ni l'un ni l'autre de nous n'y comprendra rien. Est-ce que le latin n'a pas beaucoup d'analogie avec l'italien? On assure cela, sire. Et avec l'espagnol? Beaucoup à ce qu'on dit. Alors essayons, je sais un peu l'italien, mon patois gascon ressemble fort à l'espagnol, peut-être comprendrai-je le latin sans jamais l'avoir appris. Chicot s'inclina. Votre Majesté ordonne donc. C'est-à-dire que je vous prie, cher monsieur Chicot. Chicot débuta par la phrase suivante, qu'il enveloppa de toutes sortes de préambules. Frater carissime, sincerus amor, quote prosequebatur, germanus noster carolus nonus, functus nuper, colet usque regiam nostram et pectori meo pertinaciter ad aeret. Henri ne sourcilla point, mais au dernier mot, il arrêta Chicot du reste. Ou je me trompe fort, dit-il, où l'on parle dans cette phrase d'amour, d'obstination et de mon frère Charles IX. Je ne dirai pas non, dit Chicot, c'est une si belle langue que le latin que tout cela tiendrait dans une seule phrase. Poursuivez, dit le roi. Chicot continua. Le Béarnais écouta avec le même flegme tous les passages où il était question de sa femme et du vicomte de Turenne. Mais au dernier nom, Tourenius ne veut pas dire Turenne, demanda-t-il. Je pense que oui, sire. Et Margotta, ne serait-ce pas le petit nom d'amitié que mes frères Charles IX et Henri III donnaient à leur sœur, ma bien-aimée épouse Marguerite? Je n'y vois rien d'impossible, répliqua Chicot. Et il poursuivit son récit jusqu'au bout de la dernière phrase, sans qu'une seule fois le visage du roi eût changé d'expression. Enfin, il s'arrêta sur la péroraison dont il avait caressé le style avec des ronflements si sonores qu'on eût dit un paragraphe des Vérines ou du discours pour le poète Archias. C'est fini ? Demanda Henri. Oui, sire. Eh bien, ce doit être superbe. N'est-ce pas, sire ? Quel malheur que je n'en ai compris que deux mots, Tourenius et Margotta, et encore. Malheur irréparable, sire, à moins que votre majesté ne se décide à faire traduire la lettre par quelque clerc. Oh non, dit vivement Chicot, et vous-même, monsieur Chicot, qui avez mis tant de discrétion dans votre ambassade en faisant disparaître l'autographe original, vous ne me conseillez point, n'est-ce pas, de livrer cette lettre à une publicité quelconque. Je ne dis point cela, sire, mais vous le pensez. Je pense, puisque votre majesté m'interroge, que la lettre du roi à son frère, recommandée à moi avec tant de soin et expédiée à votre majesté par un envoyé particulier, contient peut-être çà et là quelques bonnes choses dont votre majesté pourrait faire son profit. Oui, mais pour confier ces bonnes choses à quelqu'un, il faudrait que j'eusse en ce quelqu'un pleine confiance. Certainement. « Eh bien, faites une chose, dit Henri, comme illuminé par une idée. Laquelle ? Allez trouver ma femme Margotta, la savante. Récitez-lui la lettre, et bien sûr qu'elle comprendra, elle. Alors, et tout naturellement, elle me l'expliquera. »« Ah, voilà qui est admirable !» s'écria Chicot. « Et votre majesté parle d'or, n'est-ce pas ? Vas-y. »« J'y cours, sire. Ne change pas un mot à la lettre, surtout. » Ah, cela me serait impossible, il faudrait que je susse le latin, et je ne le sais pas, quelque barbarisme tout au plus. Allez-y, mon ami, allez. Chicot prit les renseignements pour trouver Madame Marguerite et quitta le roi, plus convaincu que jamais que le roi était une énigme. La reine habitait l'autre aile du château, divisée à peu près de la même façon que celle que venait de quitter Chicot. On entendait toujours de ce côté quelques musiques, on y voyait toujours rôder quelques panaches. La fameuse allée des 3000 pas dont il avait été question commençait aux fenêtres mêmes de Marguerite, et sa vue ne s'arrêtait jamais que sur des objets agréables, tels que massifs de fleurs, berceaux de verdure, etc. On eût dit que la pauvre princesse essayait de chasser, par le spectacle des choses gracieuses, tant d'idées lugubres qui habitaient au fond de sa pensée. Un poète périgourdin, Marguerite en province comme à Paris était toujours l'étoile des poètes, un poète périgourdin avait prononcé un sonnet à son intention. « Elle veut, disait-il, par le soin qu'elle met à placer garnison dans son esprit, en chasser tous les tristes souvenirs. » Née au pied du trône, fille, sœur et femme de roi, Marguerite avait en effet profondément souffert. Sa philosophie, plus fanfaronne que celle du roi de Navarre, était moins solide, parce qu'elle n'était que factice et due à l'étude, tandis que celle du roi naissait de son propre fond. Aussi Marguerite, toute philosophe qu'elle l'était, ou plutôt qu'elle voulait être, avait-elle laissé le temps et les chagrins imprimer leurs sillons expressifs sur son visage. Elle était néanmoins encore d'une remarquable beauté, beauté de physionomie surtout, celle qui frappe le moins chez les personnes d'un rang vulgaire, mais qui plaît le plus chez les illustres, à qui l'on est toujours prêt à accorder la suprématie de la beauté physique. Marguerite avait le sourire joyeux et bon, l'œil humide et brillant, le geste souple et caressant. Marguerite, nous l'avons dit, était toujours une adorable créature. Femme, elle marchait en princesse. Reine, elle avait la démarche d'une charmante femme. Aussi, elle était idolâtrée à Nérac, où importait l'élégance, la joie, la vie. Elle, une princesse parisienne, avoir pris en patience le séjour de la province, c'était déjà une vertu dont les provinciaux lui savaient le plus grand gré. Sa cour n'était pas seulement une cour de gentilshommes et de dames, tout le monde l'aimait à la fois, comme reine et comme femme. Et, de fait, l'harmonie de ses flûtes et de ses violons, comme la fumée et les reliefs de ses festins, était pour tout le monde. Elle savait faire du temps un emploi tel que chacune de ses journées lui apportait quelque chose et qu'aucune d'elles n'était perdue pour ceux qui l'entouraient. Pleine de fiel pour ses ennemis, mais patiente afin de se mieux venger. Sentant instinctivement, sous l'enveloppe d'insouciance et de longanimité de Henri de Navarre, un mauvais vouloir pour elle et la conscience permanente de chacun de ses déportements. Sans parents, sans amis, Marguerite s'était habituée à vivre avec de l'amour, ou tout au moins avec des semblants d'amour, et à remplacer par la poésie et le bien-être famille, époux, amis et le reste. Nul excepté Catherine de Médicis, nul excepté Chicot, nul excepté quelques ombres mélancoliques qui fussent revenues du sombre royaume de la mort, nul n'eût su dire pourquoi les joues de Marguerite étaient déjà si pâles, pourquoi ses yeux se noyaient involontairement de tristesses inconnues, pourquoi enfin ce cœur profond laissait voir son vide jusque dans son regard autrefois si expressif. Marguerite n'avait plus de confident. La pauvre reine n'en voulait plus depuis que les autres avaient, pour de l'argent, vendu sa confiance et son honneur. Elle marchait donc seule, et cela doublait peut-être encore aux yeux des Navarrais, sans qu'ils s'en doutassent eux-mêmes, la majesté de cette attitude mieux dessinée par son isolement. Du reste, ce mauvais vouloir qu'elle sentait chez Henri était tout instinctif et venait bien plutôt de la propre conscience de ses torts que des faits du Béarnais. Henri ménageait en elle une fille de France. Il ne lui parlait qu'avec une obséquieuse politesse ou qu'avec un gracieux abandon. Il n'avait pour elle en toute occasion et à propos de toute chose que les procédés d'un mari et d'un ami. Aussi la cour de Nérac, comme toutes les autres cours, vivant sur les relations faciles, débordait-elle d'harmonie, au moral et au physique. Telles étaient les études et les réflexions que faisait, sur des apparences bien faibles encore, Chicot, le plus observateur et le plus méticuleux des hommes. Il s'était présenté d'abord au palais, renseigné par Henri, mais il n'y avait trouvé personne. Marguerite, lui avait-on dit, était au bout de cette belle allée parallèle au fleuve. Elle se rendait dans cette allée qui était la fameuse allée des 3000 pas par celle des lauriers roses. Lorsqu'il fut aux deux tiers de l'allée, il aperçut au bout, sous un bosquet de jasmin d'Espagne, de genêt et de clématite, un groupe chamarré de rubans, de plumes et d'épées de velours. Peut-être toute cette belle friperie était-elle d'un goût un peu usé, d'une mode un peu vieillie, mais pour Nérac, c'était brillant, éblouissant même. Chico, qui venait en ligne droite de Paris, fut satisfait du coup d'œil. Comme un page du roi précédait Chico, la reine, dont les yeux erraient çà et là avec l'éternelle inquiétude des cœurs mélancoliques, la reine reconnut les couleurs de Navarre et l'appela. « Que veux-tu, Daubiac ?» demanda-t-elle. Le jeune homme, nous aurions pu dire l'enfant, car il n'avait que 12 ans à peine, rougit et ploya le genou devant Marguerite. « Madame, dit-il en français, car la reine exigeait qu'on proscrivît le patois de toutes les manifestations de service ou de toutes les relations d'affaires, un gentilhomme de Paris envoyé du Louvre à Sa Majesté le roi de Navarre et renvoyé par Sa Majesté le roi de Navarre à vous, désire parler à votre Majesté. » Un feu subit colora le beau visage de Marguerite. Elle se tourna vivement et avec cette sensation pénible qui, à toute occasion, pénètre les cœurs longtemps froissés. Chico était debout et immobile à 20 pas d'elle. Ses yeux subtils reconnurent au maintien et à la silhouette, car le gascon se dessinait sur le fond orange du ciel, une tournure de connaissance. Elle quitta le cercle au lieu de commander au nouveau venu de s'approcher. En se retournant toutefois pour donner un adieu à la compagnie, elle fit signe du bout des doigts à un des plus richement vêtus et des plus beaux gentilshommes. L'adieu pour tous était réellement un adieu pour un seul. Mais comme le cavalier privilégié ne paraissait pas sans inquiétude, malgré ce salut qui avait pour but de le rassurer, et que l'œil d'une femme voit tout, « Monsieur de Turenne, dit Marguerite, veuillez dire à ces dames que je reviens dans un instant. » Le beau gentilhomme au pourpoint blanc et bleu s'inclina avec plus de légèreté que ne l'eût fait un courtisan indifférent. La reine vint d'un pas rapide à Chico, qui avait examiné toute cette scène, si bien en harmonie avec les phrases de la lettre qu'il apportait, sans bouger d'une semelle. « Monsieur Chico !» s'écria Marguerite, étonnée en abordant le gascon. « Au pied de votre majesté, fit Chico, de votre majesté toujours bonne et toujours belle et toujours reine à Nérac comme au Louvre. Oh, »« C'est miracle de vous voir si loin de Paris, monsieur. Pardonnez-moi, madame, car ce n'est pas le pauvre Chico qui a eu l'idée de faire ce miracle. Je le crois bien, vous étiez mort, disait-on. Je faisais le mort. » « Que voulez-vous de nous, monsieur Chico? Serais-je particulièrement heureuse, assez pour qu'on se souvienne de la reine de Navarre en France ?»« Oh, madame, dit Chico en souriant, soyez tranquille, on n'oublie pas les reines chez nous quand elles ont votre âge et surtout votre beauté. On est donc toujours galant à Paris. » Le roi de France, ajouta Chico, sans répondre à la dernière question, écrit même à ce sujet au roi de Navarre. Marguerite rougit. « Il écrit ? » demanda-t-elle. « Oui, madame. »« Est-ce vous qui avez apporté la lettre ?»« Apporté non pas, pour des raisons que le roi de Navarre vous expliquera, mais apprise par cœur et répétée de souvenirs. »« Je comprends, cette lettre était d'importance et vous avez craint qu'elle ne se perdît ou qu'on ne vous la volât. » Voilà le vrai, madame. Maintenant que votre majesté m'excuse, mais la lettre était écrite en latin. » « Oh, très bien !» s'écria la reine, « vous savez que je sais le latin. » « Et le roi de Navarre ?» demanda Chico, « le sait-il » ?« Cher monsieur Chico, répondit Marguerite, il est fort difficile de savoir ce que sait ou ne sait pas le roi de Navarre. » « Ah !» fit Chico, heureux de voir qu'il n'était pas le seul à chercher le mot de l'énigme. « S'il faut en croire les apparences, continua Marguerite, il le sait fort mal, car jamais il ne comprend, ou du moins ne semble comprendre, quand je parle de cette langue avec quelqu'un de la cour. » Chico se mordit les lèvres. « Fou diable » fit-il. « Lui avez-vous dit cette lettre ?» demanda Marguerite. « C'était à lui qu'elle était adressée. « A-t-il paru la comprendre ?»« 2 mots seulement. »« Lesquels ?» « Tourenius et Margota. Turennius Margota ? Oui, ces deux mots se trouvent dans la lettre. Alors, qu'a-t-il fait ? Il m'a envoyé vers vous, madame.
Vers moi ?
Oui, en disant que cette lettre paraissait contenir des choses trop importantes pour la faire traduire par un étranger, et qu'il valait mieux que ce fût vous qui étiez la plus belle des savantes et la plus savante des belles.
Je vous écouterai, monsieur Chicot, puisque c'est l'ordre du roi que je vous écoute.
Merci, madame. Où plaît-il à votre majesté que je parle ?
Ici ? Chez moi plutôt. Venez dans mon cabinet, je vous prie.
Marguerite regarda profondément Chicot, qui, par pitié pour elle peut-être, lui avait laissé entrevoir un coin de la vérité. La pauvre femme sentit le besoin d'un appui, d'un dernier retour vers l'amour peut-être, avant de subir l'épreuve qui la menaçait.
« Vicomte, dit-elle à monsieur de Turenne, votre bras jusqu'au château.
Précédez-nous, monsieur Chicot, je vous supplie. »